Bonjour, je m'appelle Jivan Rajabali, je suis consultant en développement et également en ALM sur les plateformes on-prem, Team Foundation Server et Visual Studio Team Services sur le cloud. J'ai choisi une petite citation de Bill Gates qui est c'est bien de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il est important de s'améliorer en continu, qu'on soit dans une grande société ou dans une start-up. L'important, c'est apprendre à évoluer, s'améliorer rapidement. On prend le cas de, par exemple, Criteo qui a fait un changement drastique dans sa stratégie, qui était initialement de faire un moteur de recommandation autour des films et qui est aujourd'hui un moteur de recommandation de produits. L'important, c'est d'apprendre à changer rapidement, d'apprendre de ses erreurs. Et la clé, c'est comment apprendre de ses erreurs pour finalement rebondir sur des succès.
Bonjour, je m'appelle Antoine Sellerier, je suis dev lead sur une équipe de développement ici à Paris. Je vous expliquerai un peu ce qu'on fait dans les slides qui suivent. Une des choses que j'aime bien mettre en avant dans notre boulot au quotidien, c'est le fait que tout va toujours partir en échec à un moment. Donc vraiment prévoir, intégrer la loi de Murphy, donc anything that can go wrong will go wrong, et l'intégrer dans son process de développement et son process DevOps, c'est pour moi une des choses fondamentales pour garantir le succès de nos projets et de nos équipes. Donc rapidement, on va avec Jivan faire ça sous forme d'un discours. On a une équipe ici à Paris qui fait partie de Universal Store, donc qui fait partie des équipes de développement Windows Service. Et qui s'occupe de tout ce qui est l'offre de contenu numérique en ligne de Microsoft, musique, vidéo et autres. L'équipe sur laquelle je travaille est en charge de certains des services qui servent à fournir les fonctionnalités dans nos clients, donc à servir vraiment les données à nos consommateurs, à leur fournir accès au streaming audio. Et donc ça vous donne un peu le contexte. Donc on a un catalogue de musique de l'ordre de 50 millions de tracks disponibles dans 23 pays à travers le monde. Et on va vous expliquer un peu comment on a fait pour évoluer d'un modèle un peu monolithique tel qu'on peut le concevoir, ou on pouvait le concevoir il y a 5 ans ou il y a 10 ans, vers un modèle vraiment DevOps aujourd'hui qui nous rend beaucoup plus agile. Donc on va faire ça en passant par 4 étapes différentes qui vraiment identifient les 4 étapes de la transformation qui a eu lieu dans notre équipe ici à Paris, pour vous montrer un peu comment vous, si vous voulez mener la même transformation, vous pourriez le faire. On va parler d'efficacité du développement, de fiabilité, de confiance et finalement de l'autonomie dans tous ces process. Donc très rapidement, en fait, pour montrer l'évolution du scope de l'équipe et notre évolution de manière de fonctionner, en 2011, le service s'appelait encore Zune. Grosso modo, l'équivalent de l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui gérait un service. Les déploiements étaient tous manuels, vraiment très peu automatisés. Il y avait des cycles de développement de l'ordre de 6 mois. Enfin, c'était vraiment très très monolithique et très long. Et petit à petit, au fur et à mesure, donc en passant par Windows 8, après ouverture à d'autres plateformes sur Xbox, Web, Android, iOS, ouverture à des API publiques, sortie de Windows 10, on a réussi à grossir le scope des projets qui étaient gérés par la même équipe. Donc aujourd'hui, on gère à peu près 13. 13 services différents qui sont déployés dans 4 régions géographiques à travers le monde et qu'on déploie tous les jours, qui vont servir les 270 millions de consommateurs de Windows 10, plus les consommateurs Xbox, plus d'autres consommateurs. Donc on a vraiment réussi à grandir une équipe qui, à la base, ne traitait qu'un seul service de manière très monolithique, en une équipe qui, aujourd'hui, embrasse complètement les principes de DevOps.
Donc la première partie sur gagner en efficacité. Pour petit rappel, en 2011, vous étiez encore dans une organisation un peu traditionnelle où le rôle du développeur, c'était finalement de recevoir des spécifications, faire les fonctionnalités, les développer et puis peut-être pousser les développements. Comment le rôle du développeur dans DevOps aujourd'hui, donc en 2016, il a évolué en termes de son rôle essentiellement?
Donc ça, c'est assez intéressant. L'intervenant précédent, je suis désolé, j'ai oublié le nom.
Norm Judah.
Norm Judah. On a parlé rapidement. Il y a un des aspects qui était, il y a un des aspects clés de cette transformation, c'était de responsabiliser les équipes de dev. Et une des manières de responsabiliser les équipes de dev était de regrouper les rôles de ce qu'on appelait les tests autrefois et les devs, pour vraiment avoir un seul rôle, une personne qui comprend vraiment le produit dans son ensemble, et qui soit capable de se dire: ok, je suis responsable d'écrire du code en tant que développeur, mais je suis aussi responsable de faire en sorte que ce code, bah, il ait la qualité requise. C'est vraiment mon rôle de garantir que de la phase de conception jusqu'à la phase de mise en production, je suis responsable de mon produit.
Et donc avant, moi, quand j'avais besoin de pousser du code, finalement, je créais mes développements. Parfois, je buildais sur ma machine ou sur un serveur de build, et puis c'était envoyé à l'intégration et aux équipes opérations. Parfois, j'avais un script de déploiement, étant donné que je ne connaissais pas forcément les architectures cibles. Parfois, ils étaient adaptés par les intégrateurs, parfois peu utilisés par les opérateurs. Comment ça fonctionne aujourd'hui ?
On a eu un gros boulot, et ça, c'est aussi un des aspects qui avait été évoqué précédemment, c'est que quand on a du legacy. Le legacy, il y a beaucoup de manières de travailler qui sont un peu archaïques. Ça va vous coûter cher en termes de changement. On n'est pas à même à faire évoluer rapidement les fonctionnalités de notre produit. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de partir sur une approche où on voulait rendre le processus de développement plus efficace. Donc, un des aspects pour le rendre plus efficace, c'est standardiser notre manière de travailler. Et dans cette standardisation, un aspect qui est, à mon sens, clé pour commencer la transformation, c'est tous les concepts d'intégration continue, donc de se dire qu'en permanence, j'ai un processus qui me permet de valider mes changements et d'itérer très rapidement sur ces changements. Donc vraiment, le fait de créer cette standardisation jusqu'à après, se dire comment est-ce que je vais découpler un gros service monolithique en plusieurs microservices qui sont plus simples à gérer parce qu'individuellement, ils ont une complexité moindre. C'est vraiment ça qui a été un des déclencheurs clés de la transformation DevOps. Donc ce qu'on a fait maintenant il y a 3 ans et demi ici à Paris et qui petit à petit nous a permis de poursuivre la transformation plus tard.
Mais si demain je livre quelque chose en production et que ça se passe mal et que j'ai besoin de livrer très rapidement un fix, avant je prenais le code, je déployais, enfin je faisais dans mon code, si je suis dans la bonne version j'exécute l'ancienne version, sinon je vais exécuter la nouvelle version de mon code. Comment tu vas déployer rapidement aujourd'hui en production pour faire un quick fix par exemple ?
En fait, le déployer rapidement, ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi être une mauvaise chose. On a eu l'expérience par le passé, avant qu'on ait automatisé tous les processus de déploiement, où on se retrouvait à déployer les mauvais binaires sur le mauvais service, ou enfin des choses qui juste ne devraient jamais arriver, mais qui arrivent parce qu'on fait ça dans l'urgence. Il est 3 heures du matin, on ne comprend pas quel est le problème, on essaye de corriger quelque chose, et juste, au final, on empire la situation plus qu'on ne l'améliore. Donc c'est vraiment important d'avoir cette automatisation en place qui vous permet de valider vos changements, même quand vous faites des changements rapidement. Donc c'est pour ça que votre automatisation, elle doit permettre de faire des changements rapidement et donc d'avoir des plus petits services pour permettre de valider plus rapidement. Mais de toujours passer par ces phases d'automatisation, de testing, qui vous permettent de valider que les changements que vous faites vont être bons et vous permettent d'être réactif parce que c'est automatisé. Et donc du coup, vous réduisez les possibilités d'introduire de l'erreur humaine dans le process. Donc c'est aussi, bon, on le verra plus tard, c'est quelque chose qui fiabilise énormément le process.
Ok. J'imagine qu'aujourd'hui, vous créez du code, il y a plusieurs équipes chez Microsoft pour faire du développement, et ce code peut être réutilisé à travers les différentes équipes. Comment ça fonctionne, le partage de code entre les équipes, au niveau du versioning, au niveau de le fait de retirer le code au bout d'un moment parce qu'il va y avoir des breaking changes, ou on va finalement annuler complètement une partie du code qui a été utilisé ?
Ouais, ça c'est une super bonne question. En fait, on s'est rendu au fur et à mesure, moi j'ai rejoint Microsoft il y a à peu près 4 ans, on se rendait compte qu'il y avait une grosse partie du travail qu'on faisait dans nos équipes qui était en fait de l'infrastructure mais qui n'avait pas de valeur ajoutée en tant que telle pour le business. Et donc on a, au sein de notre équipe, donc on est une centaine de développeurs ici à Paris et plus globalement au sein de toute la division Windows et Universal Store, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour faire du partage de code et de bonnes pratiques. Donc partage de code, généralement nous on code en .NET, donc ça va être par des packages NuGet qui nous permettent facilement en fait de partager ça paraît tout bête dit comme ça, mais de partager les choses standards de comment on va faire du monitoring, comment on appelle un service back-end, tout ce que vous avez besoin de faire au quotidien pour réellement réussir à extraire les parties communes à tous les services et permettre de focusser les équipes sur la partie création de valeur et création de valeur pour le business. Et ça c'était à la fois du partage de code et aussi du partage de manières de travailler, de pratiques, de manières de prévoir les changements. Donc c'est vraiment important à mon sens de créer une communauté au sein de ces équipes de développement pour que l'équipe derrière drive le changement elle-même. C'est pas l'initiation du changement, c'est quelque chose qui vient, qui chez Microsoft du moins est venu du management, mais après vraiment le fait de le rendre successful,
la réussite.
Une réussite. C'est vraiment parce que les équipes l'embrassent complètement et sont elles-mêmes motrices du changement. C'est très très dur à rendre en français, très très dur.
Merci Antoine. Apprendre de ses erreurs, c'est une chose, apprendre des autres, c'est encore mieux. Chez Microsoft et dans ton équipe et les équipes que tu côtoies, est-ce que finalement c'est des meetings qui sont prévus à l'avance tous les mois et récurrents, ou est-ce que c'est fait plutôt d'une manière spontanée pour partager les bonnes pratiques?
On le verra un peu plus tard. Donc il y a des fois où c'est pas spontané, bien sûr, quand il y a des problèmes, mais il faut avoir des process mis en place pour réussir à corriger les problèmes. Mais le partage est vraiment ici conçu comme étant spontané. On a une équipe de développeurs ici qui est passionnée de nouvelles technologies, passionnée par le service qu'ils implémentent. Et donc cette passion se traduit derrière en promotion des bonnes pratiques. Et au final, tout ça, ça nous permet, donc, si on regarde le gain majeur de ces premières étapes vers une transformation de DevOps, pour moi, c'était vraiment le gain en rapidité des changements et en efficacité. Beaucoup plus de temps passé à faire des choses qui sont réellement utiles et moins de temps passé sur l'infrastructure et les tâches rébarbatives.
Merci Antoine, on a bien compris que le rôle du développeur avait évolué et qu'à travers les différents points que tu avais cités, qu'on pouvait réduire les différents cycles de développement et gagner en efficacité.
Ouais, juste rapidement pour donner un chiffre, au tout début quand on avait commencé la build qu'on avait, on avait une build un peu monolithique, ça prenait 6 heures, ça ratait 80% du temps, enfin c'était juste infernal. Aujourd'hui, en 5 minutes, on a une build qui sort et on est capable de la déployer si on a envie. Donc c'est vraiment l'ordre de grandeur des changements d'échelle que vous pouvez vous attendre à voir.
On peut la déployer si on a envie, mais la fiabilité du code qui a été développé, comment tu peux finalement la mesurer? Aujourd'hui, il y a des tests qui sont réalisés pour faire ça. Quels sont les différents niveaux de tests que tu vas réaliser? On a entendu Norm tout à l'heure qui nous a dit que le développeur et le testeur chez Microsoft, finalement, ça a été unifié. Est-ce que tu peux nous parler un peu dans ton équipe comment ça a fonctionné?
Ouais, donc avant, on avait un peu le problème d'avoir un cycle de tests qui était super long parce qu'on avait donc le program manager qui faisait une spécification. Au sprint suivant, le développeur qui l'a implémenté, sprint suivant, le testeur qui testait, et puis ça marchait pas, on renvoyait au développeur. Et si chacun des sprints c'était l'équivalent d'un mois ou de quelques semaines, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc en unifiant le rôle de testeur et de développeur, ça nous a réellement permis d'intégrer directement dans les phases de conception, de développement, la notion de testabilité. C'est-à-dire concevoir le produit, le code, pour qu'il soit facile à tester après, et aussi être capable de super rapidement réagir, parce que comme on est nous-mêmes moteur du test, on peut itérer au sein d'un même sprint très rapidement sur les erreurs et sur les problèmes qu'on détecte. Et on a essayé de formaliser ça en, grosso modo, trois grandes familles de tests. Donc ce qui est du test unitaire, donc ça va être vraiment le test très simple de votre code sur des sous-parties du produit assez simple. Là, le but, c'est de pouvoir exécuter le plus rapidement possible en l'ordre de quelques secondes, des centaines de tests qui couvrent votre service ou qui couvrent votre code pour valider qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement cassé dans la logique de base. Après, des tests fonctionnels qui sont plus en intégration, les différents composants de votre service, voir si ça se passe bien. Et finalement, les tests d'intégration qui est intégrer votre service avec l'écosystème global et permettre de valider que ça se passe bien. Et dans ces trois familles de tests, en fait, le développeur va être moteur de l'écriture des tests. Avant, il s'occupait à la limite uniquement des tests unitaires, mais pas du tout des tests fonctionnels et des tests en intégration. Aujourd'hui, vu que les disciplines ont été regroupées, on se retrouve à avoir un développeur qui est capable de prévoir « Ah bah tiens, quand je vais vouloir tester en intégration avec d'autres services, je vais avoir tel et tel type de problème, comment est-ce que je fais pour prévoir mon code pour qu'il soit facilement testable ?» Et donc du coup, comment est-ce que je facilite le fait d'avoir un retour rapide et un retour efficace sur la fiabilité de mon code ?
Donc dans le cadre de nouvelles applications, c'est relativement simple de créer des architectures qui sont testables. Mais dans le cadre d'une application monolithique, comme c'était le cas avant chez vous, comment vous avez fait? Quel était finalement le ROI associé? Est-ce qu'il faut passer d'abord sur une architecture microservice et après implémenter des tests, ou implémenter des tests et ensuite changer sur une archi microservice?
Alors le legacy, c'est toujours un problème parce que il y a beaucoup de connaissances implicites, des grosses briques qui sont un peu complètement mélangées et très dures à décorréler. Mais en effet, ici, c'est un effort qu'on a fait, qui a pris beaucoup de temps et qui n'est pas encore complètement fini, sur les services qui étaient vraiment critiques et sur lesquels on a des besoins en qualité, des besoins en fiabilité, des besoins en scalabilité et en déploiement rapide, de se dire petit à petit, on va décorréler des briques, on va introduire des contrats clairs entre les différents services, alors qu'avant, il y avait plusieurs services qui accédaient à la base de données en même temps. on va faire vraiment cet effort de le décorréler. Donc ça coûte très cher au départ, enfin ça prend du temps au départ parce que bah, fondamentalement quand on veut restructurer, refactorer des gros services monolithiques, bah, c'est quelque chose de compliqué. Mais au final, on y gagne énormément parce qu'on est capable de très rapidement déployer, enfin ce qu'on disait au préalable, et de très, très rapidement effectuer des changements dans notre système en production.
Ouais, grâce, j'imagine, à une infrastructure flexible. On parle notamment du cloud, Microsoft Azure, le cloud public. Et...
Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise deux types d'infrastructures, peut-être un peu comme ce que vous avez dans vos entreprises. On utilise Azure pour certains de nos services. Et pour d'autres services, on utilise ce qui a été évoqué rapidement un peu plus tôt, un cloud privé Microsoft, entre guillemets, qui s'appelle Autopilot, qui avait été développé par Bing à la base, qui est aussi une infrastructure de cloud, mais un peu plus faite par des ingénieurs pour des ingénieurs, enfin, les mains dans le cambouis. Et vraiment, le fait de passer de l'ancien mode de déploiement où on déployait à la main des binaires sur des machines qu'on gérait nous-mêmes à des infrastructures de cloud nous a vraiment permis de gagner en fiabilité aussi, parce que ces infrastructures sont conçues en prenant en compte plein de problématiques de résilience et de monitoring de vos services. Donc par exemple, quelque chose qu'on n'avait pas très bien avant, c'est quand un service cassait, bah, on devait aller manuellement le réparer, comprendre ce qui se passait mal, le redémarrer, enfin c'était pas très efficace. Aujourd'hui, sur une infrastructure de cloud, vous avez des systèmes de watchdog qui vont vous permettre facilement de détecter quand une instance va mal, de l'enlever de la rotation de votre load balancer, de redémarrer l'instance, éventuellement de réimager la machine si ça se passe toujours pas bien. Donc vous avez beaucoup de mécanismes qui sont en place qui vous permettent de gagner énormément en fiabilité parce que finalement ils automatisent plein de tâches assez simples mais quand même assez puissantes qui vont vous permettre d'automatiquement régler la plupart de vos problèmes en production ou du moins les problèmes qui sont dus à des échecs hardware ou à des espèces de bugs que vous ne contrôlez pas réellement.
Donc la résilience et le self-healing, pour toi, c'est finalement la cerise sur le gâteau de DevOps ?
Je ne sais pas si je dirais que c'est du DevOps, mais dans le cloud, oui, c'est un truc qui est très important pour aider à faire du DevOps de manière efficace parce que ça permet justement de se dire, je conçois mon service. Au début, on concevait des services pour qu'ils marchent. Aujourd'hui, on en est à concevoir des services pour qu'ils
soient utilisés,
pour qu'ils ratent. Enfin, un des aspects qu'on essaye de prendre en compte quand on conçoit nos services, c'est qu'est-ce qui se passe si une machine meurt ? Et ça arrivera en production, un jour vous aurez quelqu'un qui va, faire une maintenance dans un data center, il va débrancher la mauvaise prise, ça nous est déjà arrivé, bah, on a 8 machines qui tombent, est-ce que c'est grave ? Bah non, parce qu'on avait conçu dès le départ le service en se disant, on sait qu'on va avoir des machines qui vont mourir. Aujourd'hui, on a même dans les data centers Microsoft un truc qui avait été publiquement initialement par Netflix, qui s'appelle Chaos Monkey chez Netflix. Chez nous, on appelle ça IMP, qui est un truc qui, de manière aléatoire, va tuer des machines en production. Et le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe quand on tue des machines en production, est-ce que le service se passe bien ? Et l'idée derrière, c'est pas de se dire, bon, c'est rigolo de tuer des machines en production, c'est de se dire, un jour, il va réellement y avoir des machines qui vont mourir. Si on n'a jamais testé qu'on était résilient à ce type de problème, ça va mal se passer. Et donc, on suppose en permanence, on injecte des échecs dans le système pour valider que notre système se passe bien. Et on enlève toutes les tâches manuelles, bien sûr. Parce que
d'accord, donc pour revenir, la fiabilité est indispensable, notamment mettre en place des tests et des architectures qui sont résilientes. Comme tu l'as dit si bien, ce qui est important, c'est de construire la confiance et de construire des architectures qui vont forcément tomber, s'attendre au pire, finalement. Avoir les logs en temps réel, avoir des modèles, finalement, de self-service, de monitoring. Aujourd'hui, chez Microsoft, en tant que développeur, tu fais de l'opération également. Comment ça se passe ?
Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire faire de l'opération, mais en tant que développeur, on connaît nos services, on sait comment ils sont utilisés. Enfin, c'est ce qui a très bien été expliqué précédemment, mais vraiment la partie. Une question que je pose systématiquement à mes équipes et qu'on essaye d'intégrer, à mon équipe, et qu'on essaye d'intégrer très tôt dans notre process de développement, c'est s'il y a un problème, comment est-ce qu'on le détecte ? Donc ça veut dire qu'il nous faut des logs, des diagnostics, donc des choses qui nous permettent a posteriori de revenir sur les échecs et de détecter, d'essayer de comprendre pourquoi l'échec est survenu. Une fois qu'on a ces logs et ces diagnostics, il nous faut aussi du monitoring basé là-dessus, donc qui nous permettent de voir peut-être des taux d'échec, des changements de latence, des comportements anormaux dans notre trafic, donc plus des indicateurs statistiques sur ces diagnostics. Et une fois qu'on a ces indicateurs statistiques, on peut s'en servir juste a posteriori pour un peu comprendre ce qui s'est passé dans le système. Mais ce qui est super important aussi, c'est de s'en servir pour rapidement être notifié en cas de problème. Donc ce qu'on appelle des alertes typiquement. Et donc on pourrait penser aux alertes en deux sortes d'alertes. On peut avoir des alertes qui sont juste internes au système et qui vont déclencher des actions de self-healing. Et il y a aussi des alertes, au final, il y a un problème dans le système, on ne peut pas le résoudre tout seul. Donc ça permet de réveiller des gens ou de notifier des développeurs ou d'autres personnes et que des gens commencent à regarder un peu le problème.
Et donc aujourd'hui, en tant que développeur, ça vous arrive de tourner pour être d'astreinte entre développeurs ou il y a vraiment des opérateurs qui sont...
C'était un gros changement qu'on a effectué à peu près un an et demi. Au départ, on avait uniquement des personnes, des opérations qui étaient d'astreinte. Et quand on construit des systèmes complexes avec plein de services, c'est assez délicat pour des gens qui font partie des opérations d'avoir une compréhension très fine de toute la couche applicative. Et c'est aussi facile pour les développeurs, s'ils ne sont pas d'astreinte, de se dire « Ok, je fais un changement, au pire, ça rate, ça sonnera pendant la nuit, mais ce n'est pas moi qui ai réveillé, donc je m'en fiche un peu ». Et aujourd'hui la vision est complètement différente. On sait qu'on sera réveillé nous-mêmes si jamais il y a un problème en production. Donc du coup peut-être qu'il y aura un problème une fois, mais il n'y aura pas un problème deux fois, parce qu'on n'aime pas être réveillé le dimanche soir à 4h du mat. Non, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc le fait de, ça fait partie un peu de la responsabilisation qu'on évoquait au tout début, le fait de mettre des développeurs d'astreinte, ça peut être vu comme étant pénible à la base, mais ça le sera au début, parce qu'au début, le système, il n'est pas aussi fiable qu'on souhaiterait, et donc du coup, on risque d'être beaucoup appelé. Mais au fur et à mesure, ça va être un moteur de changement interne, drivé par les équipes de développement elles-mêmes pour fiabiliser leur système, qui sera super important.
Et les post-mortems chez Microsoft, comment ça marche? Est-ce que ça permet vraiment d'avoir une boucle d'amélioration continue à travers les différents métiers, que ce soit développeur, le business ou les opérateurs? Enfin, la partie vraiment...
Ouais, donc les post-mortems, nous, on ne communique pas sur nos post-mortems publiquement parce que le service qu'on gère est un service qui n'est pas vendu en tant que service à des développeurs, mais plus à des utilisateurs grand public. Mais en interne, on a des procédures de post-mortems qui sont assez bien suivies de nos jours. C'est aussi un truc qui est assez récent, ça fait un an et demi, deux ans à peu près, où on se dit, quand on a eu un problème en production, qui a eu un impact utilisateur, après l'impact, quelques jours plus tard, on va essayer de quantifier l'impact, d'être sûr qu'on a bien compris qui a été impacté, pourquoi, de comprendre pourquoi il y a eu un impact, est-ce qu'on l'a détecté automatiquement ou pas, est-ce qu'il s'est résolu automatiquement ou pas, et de prendre des actions derrière pour un peu comprendre comment on pourrait améliorer la détection des problèmes par le futur, donc pour éviter qu'on ait des pannes qui ne soient pas vues et pas réglées rapidement. Comment on pourrait l'automatiser, comment on pourrait éviter que la panne elle-même arrive. Donc c'est vraiment super important parce que c'est ça qui permet de boucler en fait la boucle de retour d'expérience, de dire ok, on a eu un problème en production, on pensait qu'on avait fait des systèmes fiables, mais au final ils ne sont pas aussi fiables qu'on le croit. Donc voici les actions qu'on va prendre pour le fiabiliser un peu plus. Très très important.
Donc finalement, pour toi, construire la confiance, c'est prévoir le pire et s'améliorer en continu tout en fluidifiant les changements.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment prévoir le pire, et puis parfois il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui sont pires que le pire, et donc l'intégrer et puis continuer à boucler dessus. Et vraiment l'intégrer non seulement en tant qu'équipe de dev, mais en tant qu'équipe de dev quand on parle avec des équipes qui gèrent l'infrastructure, donc plus la gestion de la plateforme comme Azure par exemple. En tant qu'équipe de dev, quand on parle avec des personnes du métier, du business, donc qui détectent que, je ne sais pas, par exemple, tiens, c'est bizarre, on a une baisse du nombre de souscriptions ce mois-ci, on ne comprend pas... Est-ce que, peut-être que c'est lié à un changement qui a fait, qui a eu un impact. Donc c'est vraiment avoir cette intégration globale et cette vision globale du métier et pas juste j'écris mes lignes de code et puis après je rentre chez moi.
Donc c'est là où on commence finalement à gagner en autonomie, parce que le développeur est le premier utilisateur de l'application, le premier avocat de l'application également, et l'avocat fonctionnel, il connaît l'application dans tout son cycle de vie, du début jusqu'à la mise en production et... à l'opération d'une certaine manière. Accéder aux environnements de production, ça a été vraiment un changement de mentalité. Comment s'est opéré ce switch et comment vous avez eu finalement accès? Est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement?
Ouais, en fait, on se rend compte quand on vit ça au quotidien, et c'est là que c'est important d'avoir des équipes qui vraiment sont passionnées par ce qu'elles font et veulent passer le clair de leur temps sur créer de la valeur pour l'entreprise et pas faire des... pas passer du temps sur des tâches rébarbatives. Au quotidien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tâches qui n'ont pas énormément de valeur ajoutée ou des process qui vont juste être là parce qu'ils sont là historiquement, mais qui en tant que tels ne créent pas de valeur. Donc par exemple, vous devez provisionner des certificats, ça va prendre du temps. Vous devez provisionner des nouveaux environnements, faire un déploiement. Vous devez accéder à des logs sur une machine, vous n'y avez pas accès directement, vous devez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Tout ça, c'est des choses qu'on avait un peu dans notre manière de travailler autrefois et qui nous coûtaient très cher, mais pas très cher en temps de travail utile, mais juste très cher en temps de communication et de coordination entre plusieurs personnes, alors que ça n'avait pas réellement de valeur ajoutée. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans les équipes ici à Paris et aussi globalement dans Microsoft, c'est de se dire toutes les tâches qui n'ont pas de valeur, enfin qui ne nécessitent pas intrinsèquement d'avoir quelqu'un qui a une forte connaissance du système opérationnel, on les rend disponibles en libre service facilement. Nos développeurs, on sait que c'est eux qui écrivent le code, donc si quelque part on leur fait déjà confiance, donc on leur donne aussi accès aux outils de production, comme ça bah, ils peuvent voir comment leur code se comporte, ils peuvent être plus autonomes quand ils déploient, quand il y a des problèmes, pour investiguer les problèmes, et ça permet de vraiment raccourcir énormément les cycles de changement aussi, et de réduire les dépendances sur d'autres équipes externes pour les changements du quotidien. Il y aura toujours des dépendances quand on a des problèmes bizarres, réseaux que personne ne comprend, mais sur vraiment les tâches récurrentes, on automatise au maximum.
Et aujourd'hui, quand vous déployez et testez, il vous arrive de tester en production, mais tester en production, pourquoi ? Et quel est l'avantage finalement de tester en production dans votre contexte ?
En fait, le seul environnement qui ressemble à la production, c'est la production. On a souvent des environnements qu'on va appeler des environnements d'intégration, des environnements de dev, des environnements de pré-production, enfin il y a à peu près 50 nomenclatures possibles, qui sont des environnements où on les crée au départ, on se dit ouais, on va avoir un réplica parfait de la production, on pourra tester des choses dessus et puis ça n'impactera pas nos utilisateurs, ça va être génial. Sauf que dès le moment où le système commence à devenir très complexe, parce qu'on a des centaines de services qui interagissent entre eux, ces environnements-là, ils ne seront pas fiables parce qu'il y aura des versions en cours de développement à différents niveaux qui seront déployées. Ils seront très difficiles à vraiment utiliser en tant qu'une vraie vision du code qui tourne en production. Donc, on essaye de se focaliser de nos jours sur le test en production, c'est-à-dire bah, on va tester qu'est-ce qui se passe quand je fais tomber un data center en production, qu'est-ce qui se passe quand je déploie une nouvelle feature sur un de mes N régions globales en production. Vraiment, tout ça, c'est vraiment très important pour avoir du feedback sur le comportement réel du système dans sa globalité et pas juste un espèce de réplica qui ne marchera au final pas du tout comme c'était prévu.
Et donc après, c'est vers l'infini et l'au-delà. Dans ton équipe, l'au-delà,
c'est... Non, c'est pas comme ça. Dans Toy Story, ils font vers l'infini et l'au-delà.
Et l'au-delà, dans ton équipe, les trois prochaines étapes DevOps que tu voudrais mettre en place
J'ai pas de réponse évidente à cette question. Toujours améliorer. Une des choses qu'on essaie de faire maintenant, donc on est autonome dans notre manière de travailler, on a beaucoup de données, mais on n'utilise pas encore aussi bien les données qu'on pourrait le faire. Notamment des données de performance. On se dit oui, on aimerait avoir tel target de performance, on aimerait avoir un taux d'échec qui soit en dessous de telle valeur, on aimerait identifier les scénarios qui ne marchent pas pour nos utilisateurs, comme on l'a vu plus tôt dans Application Insights. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais qui n'est pas encore suffisamment abouti. Donc, c'est sur ce point-là, en fait, réellement continuer à intégrer de manière encore plus agressive toutes ces données qu'on récolte pour améliorer la performance, la qualité et l'utilisation de nos services, qui est une étape sur laquelle on aimerait travailler encore dans le futur.
Est-ce que parler directement à tes utilisateurs serait une étape fondamentale dans ton équipe ?
Ouais, donc ça c'est un peu délicat en tant qu'équipe de dev interne, on n'a pas forcément le droit de parler avec nos utilisateurs à l'extérieur de Microsoft. Enfin, il y a certaines personnes qui ont le droit, mais c'est assez restreint. Mais néanmoins, on a beaucoup d'échanges, que ce soit avec des utilisateurs internes à Microsoft, où c'est un peu plus simple, ou en passant par des proxys avec les utilisateurs externes, qui nous permettent vraiment de comprendre quels sont leurs problèmes au quotidien. C'est très facile quand on est responsable de trois services dans leur coin de dire bah, « Ok, mon service, il marche bien, mais est-ce qu'il marche bien dans l'écosystème global ? Est-ce qu'il répond réellement aux besoins des utilisateurs ? Est-ce que l'utilisateur, de temps en temps, il n'a pas des problèmes ? Je ne sais pas, il essaye de jouer de la musique, ça ne marche pas, mais nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit « Ouais, c'est juste 0,5%, ce n'est pas grave. » Donc vraiment, avoir ce feedback utilisateur, c'est super important. Et pouvoir interagir avec l'utilisateur pour récupérer après derrière du feedback et puis un peu itérer, c'est vraiment super utile.
Okay. On vous remercie, on va passer à la partie questions-réponses. Et peut-être pour l'initier, ça serait Quelles seraient les trois étapes fondamentales les conseils que tu pourrais donner aux clients pour démarrer sur DevOps et sur la confiance des développeurs?
Alors, ça dépend d'où vous partez. Mais vraiment, pour moi, la première étape, c'est avoir une build fiable, avoir un système qui vous permet d'effectuer des changements en tant que développeur très rapidement et de manière sûre et vérifiée. La deuxième étape, c'est de, à mon sens, commencer à gérer vous-même toute la partie déploiement en production pour comprendre comment réellement votre service passe du binaire sur une machine de build à un environnement de production. Et la troisième étape, c'est vraiment intégrer dans votre manière de fonctionner au quotidien le retour d'expérience par du monitoring, par de l'alerting, pour être capable très rapidement d'itérer sur des problèmes que vous détectez en production et d'améliorer la fiabilité de vos systèmes.
Vous avez parlé tout à l'heure des accès aux environnements de production par les développeurs. J'aimerais savoir jusqu'à quel niveau va cet accès. Est-ce que c'est un niveau.
En gros, on est administrateur sur les machines.
C'est ça, donc vous pouvez redémarrer des
Enfin, on n'est pas
machines.
vraiment administrateur, mais nos comptes, enfin, c'est géré par Active Directory, enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais nos comptes ont accès complet aux machines de production
Donc,
sur tous les
vous
environnements.
pouvez rebooter des machines, des serveurs,
Ouais. Donc, il y a pas
redémarrer.
mal de procédures de sécurité qui sont mises en place pour éviter que si jamais nos credentials sont compromis, quelqu'un puisse accéder directement. Donc, c'est pas, enfin, c'est quand même contrôlé, mais on peut rebooter des machines. Et même parfois, on va le faire juste pour tester ou pour valider des choses. On peut retirer des machines de l'environnement de production. Quand on est sur des clouds qui sont flexibles comme Azure, on peut changer le scale de notre environnement très rapidement, configurer l'autoscale, vraiment faire tout ce qu'on veut.
Faire du tuning sur le serveur lui-même avant de le rebooter. Enfin, ça va. Finalement, vous avez les droits d'un exploitant.
En fait, on fait jamais de changement manuel en production ou ailleurs. Enfin, on le fait parfois très très tôt dans les phases de développement quand on ne comprend pas un problème pour essayer de bidouiller et comprendre ce qui se passe, mais ça on le fera sur des environnements de test, pas en production. Il y a deux aspects sur l'aspect en production. Il y a l'aspect je veux modifier mon service et améliorer ou corriger un défaut. Et là, on ne le fera jamais manuellement, ce sera toujours automatisé. Donc c'est des scripts qui tournent au démarrage du service, c'est mettre en place des outils qui détectent les problèmes, mais le but c'est vraiment de l'automatiser. Et le deuxième aspect pour lequel l'accès à l'environnement de production est utile, c'est parfois on veut débugger des choses sur des problèmes vraiment très très bas niveau, collecter des crash dumps et des choses comme ça, et les systèmes de monitoring et de collecte automatique qu'on a mis en place ne fournissent pas d'informations suffisantes, là on pourra le faire, mais c'est vraiment ultra rare de faire ça. Donc on essaye vraiment de minimiser les changements qui ne sont pas réplicables et qui ne sont pas automatisables.
Je ne sais pas si vous pourriez nous parler un peu de la documentation. On n'avait pas parlé du tout de la documentation. Est-ce que ce que vous faites est documenté derrière?
Ouais, donc on a quelque part de la chance, dans le sens où tous nos utilisateurs sont des. Enfin, tous les gens qui codent contre nos services sont internes à Microsoft. Donc c'est des gens avec qui on parle au quotidien et avec qui on a des rapports assez fréquents. Donc le formalisme de la documentation est peut-être un peu différent par rapport à une documentation qu'on voudrait rendre disponible à du grand public. Mais on a mis en place très très tôt. Des outils, alors des wikis, des équipes aussi qui mettent en place des systèmes comme Swagger aujourd'hui, qui sont des systèmes de documentation automatisée et de playground pour jouer avec des API, qui permettent facilement de communiquer avec nos utilisateurs. Et c'est vrai que en tant qu'équipe qui fournit du service, si l'équipe client n'a pas moyen facilement de savoir comment appeler le service, quelles sont les bonnes pratiques, comment elle-même débugger, ça c'est un truc important, on ne l'a pas évoqué, mais maintenant nos équipes clients sont capables elles-mêmes d'aller dans nos outils de diagnostic pour voir pourquoi ils ont récupéré une erreur et essayer de comprendre un peu eux-mêmes. C'est super utile parce qu'eux, ils sont 9 heures derrière nous aux États-Unis. Donc les rendre aussi autonomes dans leur compréhension de nos services est aussi une valeur ajoutée énorme qui raccourcit les cycles de développement.
Alors éventuellement une dernière question avant de passer à la session suivante. Non, une. Alors la dernière.
Justement, je parle quoi, en commençant le développement, on commence avec un nouveau service, avec une feuille blanche. Parce que j'ai l'impression que vous commencez d'une feuille blanche et il n'y a pas de document de spécification ou à la base vous partez de quoi?
En termes de documentation, de spécification
De
fonctionnelle?
spécifications fonctionnelles.
Si, donc on a toujours des personnes, des programme managers qui sont chargés en fait de concevoir les spécifications. Peut-être pas sur un service lui-même. Le service, au final, c'est un détail d'implémentation. Le programme manager, son rôle, c'est de récupérer les besoins clients. Donc, j'ai besoin de pouvoir, partager une playlist avec mes amis. Et puis après, c'est les équipes de dev qui vont proposer des solutions qui répondent à ce besoin. Et puis, on décide ensemble quelle est la solution qu'on va adopter. Et puis, petit à petit, on l'implémente.
C'est des sujets qu'on avait évoqués au dernier DevOps Day.
Ah, très bien.
Alors, merci Jivan, merci Antoine pour cette session.